Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Content de vous retrouver sur Radio Galaxie 98.5 FM, la radio du sud de Toulousain. Et nous allons parler lecture, nous allons parler littérature, mais en même temps expédition. Et nous allons parler voyage parce que je suis en relation téléphonique avec Patrice Dessert-Dufour pour la sortie il y a quelques mois maintenant, c'était en début d'année, de son nouveau livre. J'allais pas dire son dernier parce qu'il y en aura plein d'autres derrière. Son nouveau livre, Les Tribulations d'un reporter randonneur, un récit pyrénéen. Patrice, bonjour.
Bonjour Bruno.
Ça va ?
Ben oui, oui, ça va, ouais, c'est bien d'en parler. Il y a 45 histoires dans ce livre, donc il y a de quoi de raconter.
En fait, sur le quatrième de couverture, c'est marqué qu'on n'imagine pas toujours toutes les aventures et les péripéties que vivent un randonneur ou quelqu'un qui explique un peu ses expéditions. Un petit peu, c'est l'autre côté de la carte.
Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, ça, je ne peux jamais raconter ça dans mes articles de Pyrénées Magazine. Et je me suis dit, j'ai commencé comme ça d'ailleurs, j'ai commencé à écrire une anecdote de ce qui m'était vraiment arrivé lors d'un reportage, et puis une deuxième anecdote, je l'ai fait lire à ma compagne à la maison, qui a bien ri, et qui m'a dit, tiens, tu devrais continuer. Et là, je lui ai expliqué que j'en avais un paquet, en fait. Il y en avait vraiment plein, des aventures qui étaient concalées. Alors, il y avait vraiment, évidemment, quand on va faire un reportage pour Pyrénées Magazine, ou une rando, en général, on prend rendez-vous avec quelqu'un, on a un ou deux ou trois intervenants, on cale plein de choses pour que tout se passe bien, avec le photographe qui m'accompagne, ou alors au moins tout seul et tout ça. Et en fait, en chemin, il arrive évidemment plein d'imprévus, des moments assez cocasses. Et il y a vraiment des moments où personne n'est parfait. Donc, il y a toujours soit notre intervenant, soit la météo qui s'en mêle, soit une rencontre complètement farfelue, qui fait qu'en fait, il y a plein de choses qui changent. Et je me suis dit, ça serait chouette parce que c'est quand même des aventures, en fait, que n'importe quel randonneur peut déjà rencontrer en montagne, parce qu'il y a des choses qui peuvent être, qui peuvent survenir, ils peuvent toucher n'importe qui. Et puis après, il y a vraiment des rencontres qui sont très marrantes, des situations extrêmement rigolotes, où il y a quelque chose, en fait, qui va dérailler durant la progression, en fait, du reportage. Et là, je voulais raconter ça, voilà.
C'est le principe même de la comédie, en fait. Il y a un rebondissement inattendu à un certain moment, quoi.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et puis, c'est des anecdotes, en fait, assez courtes. À chaque fois, j'essaie de planter le décor. En général, dans des très beaux endroits, on touche toutes les Pyrénées, donc d'est en ouest, du nord au sud. On peut être côté français ou côté espagnol. Et puis, je vais directement à l'instant T où on est dans le moment. Et puis, ensuite, il y a quelque chose qui va faire que il va y avoir une écharde, en tout cas un problème qui va se greffer dans l'histoire et qui va faire que ça va dérailler, ça va, on va dire, aujourd'hui les jeunes diraient que ça va partir en live, ou en tout cas ça va partir en sucette, diraient certains, mais en tout cas c'est ce qui se passe et ce qui est assez chouette, en fait, voilà, de se dire finalement on peut être reporter à Pyrénées Magazine et on peut vivre des choses assez extraordinaires.
Ce que j'ai trouvé d'intéressant dans ce livre, qui fait à peu près 200 pages, c'est que systématiquement, comme tu le disais, tu replantes le décor et surtout tu resitues légèrement l'endroit. Parce que c'est intéressant pour les futurs randonneurs qui iront là-bas de dire, quand j'ai lu le livre, il s'est passé ça et ça à tel endroit. Tu retraces tes chemins, par exemple, de certains personnages qui sont passés là, personnages historiques ou des personnages qui ont travaillé à ces endroits-là, en fait, en resituant certains passages, des sentiers de contrebande, des sentiers de glaciers, par exemple. On peut facilement se l'imaginer, c'est ça qui est intéressant.
Oui, tout à fait. Le but, c'était aussi que ça donne envie aux gens d'aller sur place. Quand je raconte l'anecdote de glacier sur la route de la glace, c'est vrai que moi, j'invite les gens à aller directement découvrir le cirque d'Anglade dans le Couserans en Ariège, ou par exemple partir dans la peau de Walter Benjamin. On est vraiment sur le chemin d'évasion de Walter Benjamin, le philosophe juif allemand qui était vraiment poursuivi par la Gestapo en 1940. Et donc là, on marche sur ses traces. Et j'étais en plus avec un spécialiste du personnage, il me raconte vraiment sa vie. Et on vit quasiment, pas la même journée, mais on transpire comme lui. Enfin, on passe des chemins rocailleux qui sont pas évidents. Et quand on arrive à Portbou, en Catalogne, de l'autre côté en Espagne, en tout cas, on traverse la frontière. Et là, on se retrouve devant une énorme grille, complètement une impasse. On se dit, en fait, finalement, il a pu vivre la même aventure. Parce que ça se passe mal pour lui quand il arrive à Portbou. Je vais pas tout déflorer, mais on se retrouve en fait à cheval sur ce grillage, alors qu'on a pris un raccourci, on se dit, j'aime bien glisser l'histoire et la géographie des lieux, c'est super important, comme quand je raconte aussi les dingues de trésors de Rennes-le-Château, dans l'Aude, dans les Corbières. Donc là, évidemment, je rencontre des chercheurs de trésors, des grands férus, des types qui cherchent le trésor de Rennes-le-Château depuis 35-40 ans. Et là, c'est assez génial parce qu'on est, il y a une ambiance complètement loufoque, surréaliste, avec des gens qui me racontent des trucs comme s'ils étaient à deux doigts de trouver le trésor. Et je raconte pas la suite de l'histoire, évidemment, pour que les gens la lisent, mais le truc, c'est qu'on est vraiment dans l'histoire et en même temps, on est dans un lieu qui est magnifique, d'ailleurs, ce triangle Rennes-le-Château-Rennes-les-Bains, le Pêche de Bugarrache. J'invite vraiment les gens à découvrir s'ils ne le connaissent pas, nos auditeurs. Voilà, je raconte ça. Et puis, il y a des moments aussi très poétiques. Je pense à la route russe. Je prends un autostoppeur russe, juste en dessous du col de Roncevaux. Et on fait cette route là vers Saint-Jean-Pied-de-Port et on continue. Et puis, carrément, on parle de poésie, évidemment, en russe. On parle de plein de choses. Hein. Et puis, carrément, il me déclame des vers de Boris Pasternak, le grand poète russe. Et puis c'est magnifique, et on n'est plus en fait au Pays Basque, on est, je sais pas, sur une route transversale, moi j'appelle cette anecdote la route russe, c'est une sorte de raccourci, c'est un moment magique en fait, il y a des, voilà, ça peut être des moments complètement loufoques et des moments magiques, et évidemment il y a aussi des rencontres avec des animaux, il y a plein d'autres choses, il y a des moments aussi avec d'autres personnages.
C'est ça, parce que souvent, c'est des rencontres avec des personnes qui, bon, la plupart habitent sur place. Tu parles des bergers, tu parles des guides de montagne. Tu parles aussi souvent de tes collaborateurs, ceux qui ont vécu des choses avec toi, par exemple, lorsqu'ils avaient du mal à dormir à cause des moustiques ou de l'humidité. Ceux qui avaient du mal à grimper ou à descendre. Le fameux toujours, est-ce que je prends le raccourci de montagne ou pas?
Oui, ça c'est toujours... Il y a des fois, on devrait s'abstenir de prendre des raccourcis, ouais, tout à fait. Il y a le fameux chemin des canons qui va nous mener aussi dans un endroit où ça ne va pas être évident de prendre des paquets de canons ensemble. Oui, il y a toujours ces choses-là. Ouais. C'est vraiment des anecdotes vraiment classiques. Il ne faut pas prendre toujours les raccourcis, ça c'est sûr.
Ça fait combien de temps que tu sillonnes les Pyrénées, toi?
Alors pour Pyrénées Magazine, ça fait bien 18 ans. Bientôt 19. Et puis, moi, je sillonne les Pyrénées depuis très très longtemps, en fait, parce que, on va dire, tout petit déjà avec mes parents, je partais en montagne. Ensuite, j'ai bossé à Dépêche, puis j'ai bossé à la Semaine du Roussillon à Perpignan. Et à partir de là, on va dire, à partir de 99, mon rédac-chef m'a demandé, tiens, je sais que tu marches, ce serait pas mal que tu nous ramènes une rando par jour, en plus des reportages que tu fais. Et donc, je partais tous les jeudis en balade, en plus de mes reportages. Ramener une rando, donc je partais tout seul à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, donc c'était assez sportif. Et on va dire, ça fait en tout cas plus de 25 ans que je fais des randos et des topo guides et des balades dans les Pyrénées. Et après, que je sillonne les Pyrénées, ouais, ça fait peut-être plus en tout cas.
Ça veut dire que tu as fait une section des anecdotes, celles qui t'ont paru les plus mémorables, sur toutes ces années de traversée en long, en large, en travers des Pyrénées. Et des deux côtés, c'est-à-dire français et espagnol
oui.
En plus.
Oui, mais celles-là, elles ne sont pas si vieilles que ça. C'est vraiment des anecdotes qui ont une dizaine d'années. Hein. Elles sont assez récentes. Les plus vieilles, on doit avoir 11-12 ans, en tout cas, c'est quoi. Voilà. Donc, je ne suis pas remonté aussi loin parce que j'en ai vraiment des fraîches et je me suis dit, tiens, et puis j'en ai chaque fois qui se rajoute. Hein. Là, par exemple, j'ai à nouveau 2-3 anecdotes que je pourrais rajouter. Le but, c'était de raconter des anecdotes assez récentes et de montrer aussi l'actualité sur les Pyrénées. Par exemple, une des plus vieilles, c'est quand je me retrouve coincé du dos à Font-Romeu, au CNEA, Centre National d'Entraînement d'Altitude, entre des sportifs, des grands athlètes, notamment des nageurs, qui vont partir aux Jeux Olympiques de Rio. Et c'était en 2016. Donc voilà, donc c'est pas si vieux que ça, mais ça commence à monter.
Et donc, les gens que tu croises sur les montagnes lors de tes périples, que ce soit les bergers qui résident là-haut, que ce soit des randonneurs au fur et à mesure, eux vivent le même genre d'aventure que toi ou c'est parce que toi, t'en fais tellement que tu vis ces aventures-là?
Ouf, alors ça, je sais pas. Je pense que les gens qui sont en montagne, quand je discute avec eux, ils ont toujours des petites anecdotes à raconter. Donc, je pense que tout un chacun qui vit dans la montagne et qui rencontre beaucoup de monde, doit avoir sûrement pas mal d'anecdotes. Après, le but, c'est de pas les oublier et puis de pouvoir les raconter. Je crois qu'il y a quand même une technique de narration. Après, il y a sûrement des gens qui doivent les raconter qu'à l'oral. Hein. Donc voilà, après, c'est dommage parce que ça se perd. Après, l'avantage que j'ai peut-être, c'est de rencontrer quand même beaucoup de monde. Donc j'ai quand même un large panel et je peux sélectionner mes anecdotes.
De savoir les raconter pas. Surtout. C'est-à-dire l'art de l'écriture et l'art de savoir raconter les anecdotes.
Oui, voilà, c'est ça. Parce que je sais que mes collègues ont souvent aussi des anecdotes à me raconter. Elles n'ont pas utilisé leur technique d'écriture. Elles se sont dit, j'ai vécu ça, et puis un point, c'est tout. Et puis, c'est passé. Et on n'en fait plus rien. Moi, je me suis dit, c'est quand même chouette de raconter ce qui s'est passé, parce que ça fait partie de l'histoire des Pyrénées. Quand je raconte, par exemple, le berger que je vois passer en golfette, au niveau du col Midja, entre la vallée de la Carança et la vallée de l'Oury, en même temps, c'est quand même assez ethnologique, parce qu'on se dit, tiens, désormais, les bergers, ils vont plus à pied, ils se baladent en golfette pour suivre leur troupeau. Bientôt, ils vont suivre le reste du troupeau avec un drone. Et s'il faut, ils seront derrière un écran et puis ils vont plus bouger. Donc on va.
Et les siffler, pour le chien à travers le micro.
C'est ça. Donc après, évidemment, j'extrapole, mais en fait, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qu'on voit en montagne et qui évoluent. Les Pyrénées sont pas figées, elles sont tout le temps en mouvement, ça bouge tout le temps. Il y a des gens qui reprennent des rôles, des postes, des métiers d'autres personnes. C'est montré un peu, c'est une sorte de fenêtres sur les Pyrénées. Et aussi, c'était une sorte de contre-pied un peu aux pyrénéistes. Alors nous, dans les Pyrénées, par rapport aux Alpes, on a une spécialité, c'est que les pyrénéistes, c'est des gens qui racontent, en fait, savoir raconter, savoir écrire, donner le ressenti, en fait, quand on a gravi un pic, et raconter un peu la contemplation. Et évidemment, en général, c'est plutôt une heure de gloire, puisque c'est un moment où on a gravi pour la première fois tel sommet par telle face. Et là, c'était une anecdote un peu à contre-pied, une sorte de creux, de dire, moi je fais ça, mais en même temps, il y a des choses où l'erreur, la poisse font que, en fait, ça révèle tout le sel de l'aventure. Et c'est à l'envers du décor, c'est ça qui est sympa de raconter. Et puis, je pense que les lecteurs, en général, ont envie de savoir un peu ce qui nous arrive aussi. Hein.
Ça s'appelle « Les tribulations d'un reporter randonneur ». Je suis avec Patrice Tesser-Dufour. C'est aux éditions Sud-Ouest, récit pyrénéen, donc pas pyrénéiste, mais pyrénéen. C'est pas plein de choses, plein de petites aventures en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, elles sont très très courtes, enfin pas très longues, et ce qui permet même de s'en souvenir et de les raconter à d'autres, de les partager.
Tout à fait. Le but, moi, ça m'est arrivé d'en lire devant du monde et d'essayer d'ailleurs de lire. J'en ai lu quelques-unes dans des refuges. Donc c'était les premiers tests et puis ça a fonctionné. Et est-ce que Bruno, vous voulez que je vous en lise une à l'antenne?
Avec grand plaisir. L'auteur qui lit son propre ouvrage, ça me fait toujours plaisir.
Je vais vous lire le minimum de l'équipement. C'est super important pour partir en rando, c'est ce qu'il faut savoir. Donc c'est duvet, tapis de sol, couverture de survie, tente, gamelle, alimentation, change, stylo, calepin, frontal, etc. Je sais que je n'ai rien oublié dans mon sac à dos quand je ne peux plus le porter. Et pour bien démarrer la rando, il se met à pleuvoir alors que nous sommes encore sur le parking de la vallée du Lys, au fin fond de l'Haute-Garonne. Le sol est bien trempé, extrêmement gadouilleux. C'est à ce moment-là que François, mon collègue photographe, et moi voyons apparaître à l'orée de la forêt un marcheur, tout sourire, qui descend vers nous comme s'il avait l'air de flotter. Mais non, à bien examiner, il marche pieds nus. Et oui, il nous avoue son plaisir de sentir la terre sous la peau. Nous nous regardons, étonnés et un brin soupçonneux. Car la suite de notre programme, c'est « In the Bouillasse ». Heureusement qu'on est équipé de bonnes chaussures de rando et à quatre pattes, c'est-à-dire avec les bâtons sous les frondaisons. De majestueux êtres ont l'air de souffler des nuages comme d'autres soufflent du verre. Auprès de l'Artigue, sa tintinabule et carillonne. Les brebis sont déjà là, descendues brouter l'herbe tendre. Puis le soleil perce doucement. Nous remontons à la complainte du ruisseau qui par trois fois déverse de belles cascades, dont une qui inviterait presque à se doucher. Dans ce paysage du Luchonnet, nous sommes venus chercher des lacs au nom de couleurs. Bleu, vert, noir. Si la montagne est une invitation à ouvrir des paysages pour s'émerveiller encore et à s'engouffrer dans ces espaces de liberté, elle est aussi un prodigieux terrain pour le hasard des rencontres. À la cabane de la Coume, nous croisons ainsi Christian, berger de 63 printemps. Il veille sur 1800 sujets bel an, mais non rebelles, avec son homologue Adrien. Les plis et les replis des monts du Lys dessinent son royaume du 19 juin lors de la montée en estive et de la fête des troupeaux, jusqu'à la descente vers la mi-octobre. Comme nous palabrons à sa porte, notre pasteur l'entrouvre et dévoile le trésor de sa cabane sommaire. Nous apercevons des piles de bouquins comme des cairns de pierre qui occupent la partie au-dessus de la mezzanine, avec bien sûr des histoires de montagne, surprenantes des bibliothèques à une telle altitude. Il s'explique.
« Oh ben, c'est que je peux pas m'en passer. Les livres me tiennent compagnie, m'offrent du lien social et de l'évasion. Et le style Walter Bonatti m'entraîne vers les plus hauts sommets. Mais ce que je préfère avant tout, poursuit-il, c'est faire l'inventaire des objets les plus divers que je trouve sur les sentiers. Ah bon? Et il y en a beaucoup? Oh que oui! Mais c'est quoi, par exemple? Oh, je parle pas des sacs poubelles, hein, que certains essayent de déposer en catimini sur les portes des cabanes, ou des refuges pour qu'on les descende à leur place. Je parle de chaussettes, de t-shirts, de cartes, de parapluies, de casques, de portables, de casquettes et même de chaussures. Non, des chaussures aussi. On se regarde avec François et évidemment, on fait tout de suite le lien. Ça doit être celle du premier randonneur de ce matin. Oh mais, ce n'est pas tout. J'ai même trouvé un slip et un pantalon la dernière fois. Mais comment font les gens pour ne pas redescendre avec? Notre berger hausse les épaules. Il doit rejoindre à la cabane des Graouest la stagiaire qui a décidé de venir apprendre le métier. Oh, elle a encore du mal à se lever tôt hein, pour aller chercher les ouailles, les brebis, confie-t-il avec un clin d'œil. Nous le saluons et avalons les quelques lacets de plus pour accoster au lac vert. Nous en faisons le tour pour poser notre tente sur la presqu'île. En préparant le repas, nous nous rendons compte qu'une famille souris s'est installée dans les pierres qui composent le foyer. Régulièrement, ces turtives jouent à cache-cache avec nous et les bouts de nourriture. Un escabotte, c'est-à-dire un groupe de brebis, en retard part se mettre à l'ombre. Puis, le nez dans les rhododendrons et myrtilles, nous montons dans la portion qui rejoint l'intersection de la coume. Nous nous faufilons à travers les sorbiers des oiseleurs et des bouleaux. Et là, nous faisons une rencontre improbable. De loin, on distingue un homme en train de descendre. Étonnamment, il est habillé tout en blanc. Plus il se rapproche de nous, plus on se demande ce qu'il porte. Arrivé à quelques mètres, on se rend compte qu'il est nu, comme un ver en tenue d'Adam. Enfin, pas complètement. Il a un chapeau, des lunettes de soleil, des chaussettes, des chaussures et un petit sac à dos. Le minimum de l'équipement. À notre rencontre, il se glisse dans les fourrés pour ne pas trop se montrer. Nous ne voyons que ses fesses blanches, on a compris. La rando naturiste touche aussi les Pyrénées. François est un peu déçu. Bah, dommage que ce ne soit pas des Suédoises, me dit-il. Ah, par contre, faut prévenir le berger, on a retrouvé le propriétaire du slip et du pantalon.
Donc ça s'appelle « Les tribulations d'un reporter randonneur ». Voici un exemple d'une des tribulations qu'a rencontré Patrice Tessier-Dufour. Ce livre aux éditions Sud-Ouest qui vient de sortir en 2022. Le prix est de 17,90€. C'est un excellent cadeau pour lire sur le bord d'un lac, par exemple, en haute montagne, ou tranquillement sur un terrain de camping ou sur la pause dans une randonnée pour faire un peu comme l'explorateur que tu es, c'est-à-dire prendre connaissance de la montagne, mais de l'autre côté, du côté, je dirais, oui, aventure, plaisant et drôlatique.
Oui, tout à fait. Merci Bruno, ouais, tout à fait, c'est ça.
Patrice, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt pour un prochain ouvrage, j'espère.
Oui, tout à fait. Je vous en parlerai à la rentrée. Il y aura des nouveautés en septembre, octobre ou novembre.
Et on trouve encore les randos dans Pyrénées Magazine?
Oui, tout à fait, tout à fait. On les trouve encore dans Pyrénées Magazine.
Super. Merci en tout cas. Je rappelle, Tribulation d'un reporter randonneur. Édition Sud-Ouest, Patrice Tessier-Dufour. Patrice, merci beaucoup et à bientôt.
À bientôt, merci Bruno.